au dossier de Radio Okapi. Au Nord Kivu, au moins 400 enfants ne vont plus à l'école depuis le début du deuxième trimestre à Ombo Nord, localité située à 107 km au sud de Walikale Centre. Cette déperdition scolaire est liée notamment à la paupérisation des parents qui sont dans l'incapacité de payer les frais scolaires. Les acteurs locaux craignent pour l'avenir de ces enfants. Un dossier réalisé par Gabriel Ouamenia.
Ce sont effectivement plus de 400 enfants qui ne vont plus à l'école à Ombo Nord. Et les raisons de cette déperdition scolaire sont multiples, affirment les acteurs locaux ainsi que ceux de l'éducation. Outre le fait que bon nombre de ces enfants sont déplacés localement, les familles souvent démunies ne sont pas en mesure de payer les frais scolaires de leurs enfants. Témoignage de Raphaël Boulembe Masumbuko, responsable de l'école primaire Mbwessi.
Nous avions commencé avec un grand nombre d'élèves depuis septembre, mais nous demandons la prime aux parents. Il y a certains parents qui n'ont ni même 100 francs pour payer à leurs enfants. L'enfant rentre à la maison, il n'étudie plus. Dédé, ceux de l'UNICEF nous avaient promis qu'il faut payer pour certains élèves après avoir fait une campagne de sensibilisation porte à porte afin que les élèves en âge scolaire viennent étudier. Après 3 mois, ils nous ont déçu dire qu'ils n'ont pas d'argent pour payer à ces élèves. Et certains ont jugé bon même de rentrer dans leur vie quotidienne à la maison.
Ces exclusions scolaires sont parfois décidées par les parents eux-mêmes, car Ombo Nord étant complètement enclavé, les parents en général agriculteurs ne peuvent pas écouler leurs produits dans les grands centres de consommation faute de route. Du coup, ils n'ont aucun revenu pour payer la scolarité de leurs enfants, ce qui favorise la déperdition scolaire. Baraka Bayoua Medar est membre du comité des parents d'élèves à l'EPE Loakoi.
Il y a manque de moyens, parce que les parents ne parviennent pas à payer l'argent. Et surtout, ici chez nous, nous vendons l'huile de palme qu'on vendait auparavant à 20 000 francs, 18 000 francs. Mais à cause de la coupure de notre route, en tout cas, avec un parent là qui possède à peu près 6 à 7 élèves, et il peut vendre son bidon d'huile à 8 000 francs, ça ne peut pas répondre à tous les moyens financiers à l'école. C'est pourquoi bon nombre de l'élève reste à la maison, en train de sillonner au lieu d'aller à l'école.
Vu cette situation, les acteurs de la société civile se disent inquiets quant à l'avenir de ces enfants. Ils affirment que la plupart de ces élèves désœuvrés sont utilisés dans les travaux domestiques et autres. Explication de Cabral Yombo.
Des enfants, ils sont utilisés par les commerçants de transporter leurs bagages, soit leurs marchandises, de les mettre dans le dépôt pour qu'ils puissent les donner quelque chose comme 500 francs. Certaines aussi sont utilisées par les motards. Ils sont devenus des lambeurs de moto. Encore sont
des lambeurs de moto, c'est-à-dire
qui se sont utilisés par les motards pour faire le lavage des motos. Et aussi, certaines aussi sont utilisées par leurs parents pour aller au champ parce qu'ils n'ont pas les moyens d'étudier.
La ministre provinciale de l'éducation que nous avons contactée promet de se prononcer sur cette problématique dans un futur proche. Goma, Gabriel Ouamenia, Radio Okapi.
Revue de presse. C'est une compilation signée Jean-Désiré Kanyama.
Le potentiel titre à la une, la communauté internationale accorde sa violence sur la crise en RDC. Juin 2018, la ligne rouge est tracée. Selon ce quotidien quinois, au terme de la résolution 2409 du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à l'alternance démocratique en RDC, la communauté internationale tient Kinshasa à l'œil. Le mois de juin poursuit le potentiel, sert de test à cette dernière pour juger de la volonté réelle de la majorité au pouvoir à faciliter le jeu électoral pour les scrutins du 23 décembre 2018. C'est que la ligne rouge est tracée, la CENI ne devrait pas la franchir, conclut le journal. Référendum, le cabinet de Joseph Kabila relance le débat, titre à la une, le phare. 24 heures après la réunion tenue à la Cité de l'Union africaine entre le président de la République et 300 députés de sa famille politique, écrit Le Phare, un des directeurs adjoints du cabinet du chef de l'État vient de lâcher du lest. Le quotidien de l'avenue Lukusa écrit, se référant sur un tweet de Jean-Pierre Kambila, je le cite, « Une constitution, ce n'est certes pas la seule condition qui peut et doit aider le pays à progresser. La nôtre nous fragilise. Il faut la changer et le plus vite possible. Il n'y a pas de raison démocratique d'attendre. » Fin de citation. Ce pavé jeté dans la mare par ce proche collaborateur du chef de l'État a dévoilé l'autre face de l'iceberg, conclut le quotidien de l'avenue Lukusa. Actualité.cd, titre à la une, primature, Félix Tshisekedi n'est ni preneur ni demandeur. Ce média en ligne écrit que le chef de l'UDPS demande des messages qui circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, faisant état d'un possible changement à la tête de l'exécutif national. Dans un communiqué publié hier à Kinshasa, écrit Actualité.cd, le tout nouveau président de l'UDPS a qualifié cela de campagne diffamatoire orchestrée par les forces centrifuges du pouvoir et des complexes politiques contre lui. Ces rumeurs sont donc fausses, confirme Félix Tshisekedi, cité également par Le Potentiel. Par ailleurs, écrit ce quotidien, l'UDPS dénonce cette campagne diffamatoire contre son président. Mais se référant à ce communiqué d'hier, Le Potentiel écrit que l'UDPS et son président rejettent fermement l'idée d'un pouvoir pour le pouvoir à partager tel qu'orchestré et véhiculé intentionnellement par les ennemis du peuple. Double nationalité, la CENCO appelle à ce que la justice soit appliquée de manière impartiale. C'est le titre à la une de Politico.cd. La CENCO, dans son dernier message, écrit ce média en ligne, exige l'application impartiale de la loi et donc, indique Politico.cd, si l'on doit voir les choses dans le sens du moratoire, cela doit être fait pour tout le monde. Et si on va dans le sens d'appliquer strictement la loi, on doit le faire pour tout le monde, qui est au gouvernement, au Sénat et dans d'autres institutions de la République. Précise Politico.cd, qui cite le secrétaire général de la CENCO, M. l'abbé Donatien Choly.
L'invité.
Radio Okapi reçoit tout de suite un des organisateurs du Congrès régional africain contre la peine de mort tenu à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il s'agit du directeur des programmes de l'Association européenne Ensemble contre la peine de mort. Nicolas Perron répond aux questions de notre envoyé spécial Jeff Ngoy.
Nicolas Perron, quelles sont les raisons pour lesquelles vous militez contre la peine de mort ?
Pour nous et pour toute la communauté abolitionniste, le droit à la vie est le premier des droits de l'homme. C'est un droit sacré. Nul n'a le droit d'ôter la vie. Il faut absolument le protéger. Et donc, dans ce cadre, il est inconcevable qu'une société, au nom de la justice, prononce des peines capitales et exécute la population.
Et comment se présente la situation de cette abolition de la peine de mort pour laquelle vous militez dans le monde ?
L'abolition de la peine de mort est une tendance universelle. C'est irréversible. Nous aurons un jour l'abolition universelle de la peine de mort. Lorsque la France a aboli la peine de mort en 1981, il y avait deux tiers des pays du monde qui pratiquaient la peine de mort, qui donc exécutaient régulièrement des condamnés. Maintenant, en 2018, il y a deux tiers des pays du monde qui ne pratiquent plus la peine de mort. Ça veut dire que la tendance est exactement inversée. La dynamique est en marche, et particulièrement en Afrique. Nous aurons un jour l'abolition universelle de la peine de mort, et je suis convaincu que l'Afrique sera le prochain continent abolitionniste.
Et après ce congrès, qu'est-ce que vous projetez dans l'avenir ?
Alors, nous préparons également le congrès mondial contre la peine de mort. La 7e édition aura lieu à Bruxelles, qu'il rassemblera entre 1500 et 2000 personnes venues du monde entier pour mettre en place des stratégies abolitionnistes. Et j'espère que l'Afrique sera particulièrement représentée dans le prolongement de ce congrès, car l'Afrique sera la thématique principale du congrès mondial.
Vous avez une idée des pays abolitionnistes ou rétentionnistes en Afrique ? Ils sont combien ? Ils sont maintenant à quel stade ?
Oui, on a une très bonne idée de cette information. Lorsque le Cap-Vert a aboli la peine de mort en 1990, il était le premier pays africain à abolir la peine de mort. Aujourd'hui, tous les membres de l'Union africaine, il n'y a plus que 13 pays qui sont rétentionnistes. Il n'y a plus que 13 pays de l'Union africaine qui pratiquent régulièrement des exécutions. Ça veut dire que 4 pays sur 5 en Afrique ont aboli la peine de mort de droit ou de fait. Les derniers pays abolitionnistes, on les connaît, c'est Madagascar, c'est le Gabon, c'est le Congo, c'est le Burundi, c'est le Togo. Il y a encore un peu d'efforts, une certaine zone résiste encore, en particulier en Afrique de l'Est.
Et que comptez-vous faire pour faire adhérer tout le monde à ces combats ?
Eh bien, nous travaillons à partir d'actions de plaidoyer auprès des autorités, auprès des États. C'est pour ça que nous avions ici la chance d'avoir de très nombreux ministres d'État africains, en particulier Madame la ministre des Droits de l'Homme de République démocratique du Congo, qui est venue ici au Congrès pour dialoguer avec nous sur les meilleures stratégies à mettre en place pour avancer par étapes vers l'abolition. Nous organisons également des activités avec les ONG, du renforcement de capacité des ONG. Nous organisons également des actions de sensibilisation et d'éducation de l'opinion sur cette thématique de l'abolition de la peine de mort.
À quel résultat aboutit à ce jour ce congrès et en êtes-vous satisfait ?
Eh bien, les résultats sont extrêmement positifs. Il y a un engouement exceptionnel. Plus de 400 personnes présentes au congrès sur les deux jours. On a dû refuser du monde à la séance d'ouverture. 6 ministres d'État africains présents à l'ouverture. Bref, une réussite totale. Il y a un vrai engouement en Afrique sur cette thématique. L'abolition est en marche et l'Afrique sera le prochain continent abolitionniste.
Et vous prenez quelles recommandations ?
Nous recommandons à tous les États africains de mettre en place des mesures immédiates en vue d'officialiser le moratoire sur les exécutions et plus tard d'abolir la peine de mort. Une dernière recommandation un petit peu plus précise également. En décembre prochain aura aura lieu aux Nations Unies le vote de la résolution relative à l'application d'un moratoire universel sur les exécutions. Nous appelons donc tous les États africains en particulier, ceux qui sont en particulier en moratoire de fait sur les exécutions, de voter en faveur de cette résolution qui ne concerne que l'application d'un moratoire universel sur les exécutions. Malheureusement, un pays comme la RDC, alors qu'il est en moratoire depuis 2003, ne vote pas en faveur de cette résolution. Donc nous espérons très fortement que cette fois-ci, la RDC respecte ses engagements pris à Oslo et vote en faveur de cette résolution.
Nicolas Perrin, nous vous remercions.
Merci.
Okapi Sport. Le rendez-vous avec vous, Dieudonné Kabeyangaloulin. Rebonjour.
Rebonjour Pascal. Barrage retour de la Coupe de la Confédération. L'AS V-Club ramène la qualification en République démocratique du Congo après avoir fait exploser littéralement la formation du cercle sportif La Mancha ce mardi après-midi au stade municipal des Pointe-Noire sur le score de 5-1. Un quadruplé de Jean-Marc Makoussou Mondele et un but de Moloko Jésus du Capel. À la mi-temps, les scores étaient de 1 but partout. Dans les 3 autres matchs joué hier mardi, qualification aussi d'Al-Masri d'Égypte, celle de l'ISM Alger et d'ASEC Mimosa d'Abidjan. Suite à fin de ce barrage, retour ce mercredi avec 12 matchs. Les tirages au sort de la phase des poules aura lieu samedi prochain, 21 avril 2018 au Caire en Égypte. Ligue nationale de football, 4 matchs sont au programme ce mercredi pour les comptes de la phase des playoffs. Mazembe va recevoir Maniema Union chez lui à Kinshasa. Ranger tentera de défier Dauphé Noir et Dragon Bilima croisera groupe Bazano au stade Père Raphaël de la Quétude de Rio. En Bougimaï, Sangabalindi recevra le Derin Club Mutima Pembe au stade Kachala Bonzola sous le coup des 15h. Un match difficile pour les coachs du DCMP Otis Ngoma.
Une équipe très agressive, une équipe qui est difficile à jouer chez eux. Je crois qu'ils perdent pas beaucoup de matchs chez eux. Et en même temps, ils arrivent toujours à avoir un ou deux penalties par match. Ils savent comment faire. Il faut faire très attention par rapport aux détails, à l'énervement, parce que souvent nos matchs se terminent en queue de poisson dans la mesure où tout le temps il y a un peu de troubles à la fin du match. Donc ils sont préparés mentalement, psychiquement. Faut s'occuper que de nous-mêmes au départ et pas des autres.
Enfin, suite des préliminaires de la Coupe du Congo à la Ligue de football du Kassai Oriental, on a joué ce mardi au stade de la Tchikiche en Mbujimayi. Olympique de Mbujimayi a battu la Jeunesse sportive de Mwenedi tout 3-2. Saint-Thomas a gagné Mbongo Sport 2-1.
Merci Dieudonné Kabeya Ngalula. Avant de rendre l'antenne, parlons du taux d'échange indicatif de la Banque Centrale du Congo. Le dollar américain s'achète à 1584 francs congolais et se vend à 1649 francs congolais. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. En direct de Kinshasa, il est 7h30.